11h midi. Studio B. Studio B.
Et qui toi?
Bah, c'est moi ça.
Ah, vous connaissez pas?
Qu'est-ce que tu fous là?
Bah, j'en sais rien.
C'est pour l'annonce.
Ah, vous cherchez les sparring?
Plus que du chômage, plus que du RSA.
Bon, fou, j'en tomberai pas à l'usine.
Je me bouge et je trouve un taf.
Mais t'es sérieux là, devant maman?
Je suis pas un ennemi de la liberté.
Moi, j'ai le droit de le faire, toi aussi t'as le droit de le faire.
Il faut que tu t'habilles correctement.
On est pas d'accord, on est pas d'accord.
On est pas d'accord. Non, on est pas d'accord.
Il est temps de prendre votre envol.
Venez, suivez-moi.
Et le soleil est là, car je l'ai demandé.
Jusqu'à midi, Studio B, le magazine ciné de Beurre FM.
Avec un B comme bridge, bonjour, bienvenue dans Studio B, moi c'est Christophe et avec Camille, jusqu'à midi, on va vous parler de cinéma. Camille, que je vois dubitatif sur le bridge.
Oui, alors qu'est-ce qu'un bridge?
Non,
Christophe,
on va pas parler de problèmes de dents.
Voilà, bah oui, parce que je ne vois pas trop le rapport.
Je voyais déjà plus ta mutuelle, ça coûte cher ce truc-là, c'est pas possible. Non, bridge parce que c'est un appareil photo.
Ah, voilà. Comme bridge est un appareil photo.
Un bridge. C'est un appareil photo qui est entre le vrai appareil photo pro et le compact.
D'accord, voilà. Très bien. Bah écoute, je suis contente d'avoir appris quelque chose aujourd'hui grâce à toi.
Et surtout, tout le monde a hâte de savoir enfin de quoi on va parler. Mais pour ça, il va falloir attendre la fin du sommaire de cette émission. Donc, bienvenue, on parle de cinéma jusqu'à midi sur Beurre FM. On va commencer avec ma sélection des sorties ciné de mercredi, avec du trafic à Phuket, du terrorisme à Bagdad et une plongée en sous-marin. Et le ciné à la télé, c'est le dimanche. Et c'est Camille qui nous guide.
Oui, alors on va parler de Rain Man, qui est sur une chaîne que je ne connaissais pas. Donc, on va aussi apprendre que la chaîne RMC Story existe. Voilà.
Bah, alors tout le monde sait que RMC Story existe.
Bah, pardon, moi je ne savais pas. Voilà.
Bah si, c'est la chaîne numéro 23.
Bah voilà, merci Christophe.
Parce
mais
que RMC a racheté la chaîne numéro 23.
Donc, mais oui, mais je savais que RMC, mais RMC Story.
Bah oui.
Bah, oh là, écoute, excuse-moi.
Il faut tout lui expliquer.
Dès
que ça sort d'une salle de ciné, elle ne connaît plus rien. C'est incroyable. Bon, c'est pas grave. Donc, pour ça, ce sera donc les sorties ciné et puis le programme télé de ce soir. Oui, oui. On s'aime bien en vrai, sinon.
Oui, c'est ça. On s'apprécie. Bon.
Oui, on s'apprécie en tout cas. Notre rendez-vous d'actu, ce sera à 11h30 au box-office et c'est sans surprise. Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu qui gagne et qui est en tête du box-office? Mais ce n'est pas la seule actu de la semaine, Camille.
Ah bah non. Lars von Trier, figurez-vous, va transformer ses films en diamants. Alors, je vous expliquerai comment ça va se passer. C'est assez impressionnant. Et alors, bonne nouvelle de la semaine, Martin Scorsese et Leonardo DiCaprio vont se retrouver pour une collaboration future. Et je vais parler des Oscars aussi, où il y a une petite polémique encore autour des Oscars.
Oui, autour des Oscars, il y a forcément des polémiques.
Ça ne s'arrête jamais.
Je remarque que ça faisait longtemps que tu ne nous avais plus parlé de Leonardo DiCaprio.
Oui, bah oui, je trouvais que ça manquait, donc voilà.
Il fallait bien. On parle d'un festival aujourd'hui, on y arrive au Beckham Bridge Festival, parce que c'est un festival qui a la particularité de permettre à tout le monde de participer, déjà parce que les films doivent faire moins de 2 minutes et 20 secondes, donc du coup c'est un format court, donc c'est plus facile de les faire, et ensuite parce que l'organisateur Nikon prêtait du matériel à qui voulait participer. Ça permet d'accéder facilement à un festival et être vu déjà par un beau jury d'acteurs, réalisateurs et autres professionnels du cinéma, et pour les gagnants d'être diffusés au ciné et à la télé. De quoi découvrir quelques petites pépites. Qui va venir nous en parler, Camille?
Alors on va avoir deux acteurs, donc Julia Munier et Swan Laoua, qui jouent dans Je suis, le film qui s'intitule Je suis une audition. Ils ont aussi collaboré voilà, au film, à l'écriture et tout ça. Et aussi, Swan Laoua joue dans un deuxième film de la sélection qui s'appelle Je suis un trésor égyptien. Donc, ils vont venir nous expliquer un petit peu comment tout ça s'est passé.
Ils vont venir nous parler de ça. Donc, ce sera plus dans la dernière partie de l'émission. Mais juste avant, nous aurons par téléphone Alexandre Dino. C'est l'organisateur. Enfin, en tout cas, il fait partie de l'organisation de ce Nikon Film Festival. On va l'avoir par téléphone d'ici moins de 5 minutes. Voilà, vous écoutez Beurre FM. Nous sommes le dimanche 17 février. Bienvenue dans le 84e numéro de Studio B.
Studio B, les sorties ciné de la semaine.
Paradise Beach.
Oui, un thriller d'action dans des décors paradisiaques, ceux de Phuket, et un gros casting de rappeurs. Bande annonce.
Il est revenu, il est sorti de prison.
Moi, ça fait 15 ans que j'attends ce moment, c'est le plus beau jour de ma vie.
J'ai lu dans les journaux qu'on avait braqué 2,5 millions d'euros.
Eh, elle est où ma part?
On va tout expliquer, mais.
Expliquer quoi?
Il y a une grosse crise financière et l'oseille est partie en fumée.
Les deux bars que j'ai sur Patong, le Money Night, je te le donne, frère. Mais s'il te plaît, si tu prends le bar, prends les problèmes qu'il y a avec.
C'est quoi les problèmes?
Ici, t'es pas chez toi, qu'est-ce que tu veux?
J'aime pas qu'on vienne bouffer dans la gamelle ou dans celle de mes amis.
Il est en train de faire ce qu'on n'a jamais été capable de faire en 5 piges.
Rentre chez toi.
Qui va me faire rentrer chez moi?
Si tu crois que la violence ne résout rien, c'est que t'as pas frappé assez fort.
J'ai senti la haine dans tes yeux, mais pas le con.
Chétan est de retour.
On fait quoi? On va se laisser faire?
Qu'est-ce qu'il veut ton frère, hein?
Je te dis qu'il veut tout.
Il veut sa part.
J'ai l'impression d'être acculé contre un mur, j'aime pas ça, croyant.
Je vous rappelle, vous étiez tous bien d'accord pour prendre sa part.
Bon, ferme ta gueule, toi!
Depuis que ton frère est revenu, tu m'as l'air bien nerveux.
On a tout construit ici, jour après jour. Là, on est en train de tout perdre.
À quoi ça sert tout ça?
Tu sais qui je suis, est-ce que je pense? Mon avis, elle est foutue depuis longtemps.
Alors je vous le disais, gros casting pour ce film qui réunit aux côtés de Samy Bouajila et Minani Doutet les rappeurs Kool Shen, Seth Gecko, Nesbill, Dossé et HP. Alors c'est pas tous leur première expérience ciné, hein. Seth Gecko retrouve la Thaïlande puisqu'il était déjà au casting de Pattaya, et puis Kool Shen était apparu dans Réparer les vivants côté de Tahar Rahim ou encore dans Abus de faiblesse avec Isabelle Huppert. Et il se dirige petit à petit vers une carrière d'acteur de ciné. Et pour ne rien vous cacher, alors sachez que on voulait consacrer une émission à ce film, mais que les attachés de presse n'ont visiblement pas jugé utile de répondre à la demande d'interview de Studio B sur Beurre FM, et c'est bien dommage.
Bagdad Station.
On n'entend pas souvent parler du cinéma irakien. Mohamed Al-Daraji, le réalisateur irakien de ce film, propose un film plein de suspense qui suit Sarah qui va à la cérémonie de réouverture de la gare de Bagdad, mais elle y va pour faire un attentat. Sauf qu'elle va prendre comme otage Salam, qui est un vendeur un peu baratineur qui va essayer de la raisonner, alors pour sauver les passants, mais aussi pour se sauver lui. Voilà, donc c'est l'histoire de Bagdad Station, un film plein de suspense qui sort aussi ce mercredi.
Le chant du loup.
Pour comprendre ce film, commençons par un peu de vocabulaire. Voici une oreille d'or.
Sous-marin. Pas américain. Pas anglais. Sous-marin nucléaire, lanceur d'engins.
Une oreille d'or, c'est quelqu'un qui arrive à reconnaître les sous-marins à leur bruit. C'est un personnage hyper important parce qu'il peut notamment reconnaître le chant du loup.
Le chant du loup. Il nous a détecté second.
Poste de combat, tu diffuses.
Le chant du loup, c'est le bruit d'un sonar ennemi qui plonge parce qu'il a repéré votre sous-marin. Et ça, c'est hyper mauvais signe parce que si vous a repéré, ça veut dire qu'il peut vous prendre en chasse et qu'il peut vous tirer dessus. Donc c'est vraiment mauvais signe, surtout en période de tension.
On est en niveau d'alerte 6.
L'attaque majeure est en cours sur le sol français.
Le président de la République me commande d'effectuer une frappe en riposte.
C'est donc un film de sous-marin, un genre rare dans le cinéma français. Il n'y en avait pas eu depuis 1951. Le réalisateur a voulu beaucoup de réalisme et mettre notamment en avant ce métier d'oreille d'or. Il dit que c'est un des rares métiers qui ne pourra jamais être remplacé par une machine, puisque c'est vraiment au talent de la personne qui reconnaît. C'est vraiment presque un côté artistique sur cette oreille d'or. Voilà, donc c'est un métier qui ne pourra jamais être remplacé, mais qui est au service de l'armée. Il a envoyé en tout cas ses acteurs en stage dans des vrais sous-marins de la marine pour leur apprendre notamment comment on bouge dans ces espaces qui sont hyper étroits. Et le tournage a eu lieu dans des reproductions de sous-marins à échelle réelle. A voir donc pour le réalisme, pour le suspense et le beau casting, Reda Kateb, Omar Sy et Mathieu Kassovitz notamment.
Et François Civil.
Et François Civil,
qui fait partie du jury d'ailleurs du Nikon Film Festival.
Exactement, tout se recoupe.
Qu'est-ce qu'on va voir aussi cette semaine?
On peut voir aussi Amal, un documentaire sur une jeune ado égyptienne dans les années post-révolution. À voir aussi La Grande Aventure Lego 2. Alors c'est le 2, mais c'est le 4e film Lego en 5 ans, si on compte les dérivés Lego Batman et Lego Ninjago. D'après la bande-annonce, ce film a quand même l'air bien drôle, alors pourquoi pas. Mais on verra dans le box-office tout à l'heure que les premiers chiffres aux États-Unis sont plus faibles qu'attendus. Et puis à voir aussi dans les séries des films drôles, Black Snake, La Légende du Serpent Noir 2 et avec Thomas Gisel qui joue Clotaire, qui se fait piquer par un serpent et qui devient Black Snake, un super-héros totalement irresponsable. Voilà pour les sorties ciné de la semaine. Mais il y a un autre film qu'il faut voir, non pas au ciné, c'est ce soir, voir ou pas voir, peut-être, je sais pas, parce que c'est toi qui me dis.
Je casse le suspense tout de suite, bien sûr qu'il faut le voir, c'est Rain Man.
Rain Man qui passe ce soir sur le canal 23 de la TNT, pour ceux qui ne connaîtraient pas la chaîne,
sur la chaîne
RMC Story.
Voilà, qui existe.
Oui.
Et bon, bah, apparemment, elle passe de bons films en plus.
Oui.
Donc bah, ce soir, on se refait Rain Man parce que je pense quand même que la plupart des gens l'ont déjà vu. Ouais, le film est sorti en 89 avec Tom Cruise dans La Force de l'âge et un Dustin Hoffman fidèle à lui-même, c'est-à-dire bon, bah, excellent. Hein. Il y incarne Raymond Babbitt, autiste à la mémoire exceptionnelle. Il est atteint du syndrome du savant, pour être très précise. Alors, le syndrome du savant existe vraiment, puisqu'il faut savoir que ce fameux Raymond est inspiré de Kim Peek, qui a vraiment existé et avait ce fameux syndrome du savant. Charlie Babbitt, lui, n'a pas existé. C'est le personnage qu'incarne Tom Cruise. Donc, Charlie découvre à la mort de son père qu'il a un frère plus âgé qui est placé dans un institut et à qui ce père a légué 3 millions. Donc, Charlie décide d'aller le chercher. Bon, c'est pas pour retrouver son frère, c'est pour récupérer ses 3 millions. Et s'en suivra une espèce de road trip assez émouvant et assez étonnant aussi, parce que voilà, Raymond Babbitt est quand même un personnage assez étonnant. Et si les deux acteurs excellent, chacun dans leur rôle, au départ, c'est Dustin Hoffman n'était pas du tout pressenti pour le rôle de Raymond Babbitt, mais il devait incarner celui de Tom Cruise. Et c'est Bill Murray qui devait incarner celui donc incarné par Dustin Hoffman. Alors finalement, c'est Hoffman qui prendra le rôle de Raymond Babbitt et ça lui vaudra même un Oscar. Le film est reparti cette année-là avec 4 statuettes, celui donc de meilleur acteur, celui de meilleur film, de meilleur scénariste et de meilleur réalisateur. Il a aussi reçu 2 Golden Globes, un Ours d'Or à Berlin et a été nommé pour le César du meilleur film étranger. Quand même.
Ça fait un paquet de trucs à mettre sur la cheminée, ça.
Donc, qui l'a mis sur sa cheminée ? C'est le réalisateur Barry Levinson. Il a notamment fait Sphère ou Good Morning Vietnam avec Robin Williams. Robin Williams.
Oui, c'est ça, oui. Oui.
Ah, oui. Je confonds avec Robin Williams.
Non, il y en a un qui chante et il y en a un,
c'est
un acteur.
Donc, c'est bien Robin Williams.
C'est Robin l'acteur et c'est Robin qui chante.
Voilà.
Il chante plus trop d'ailleurs, mais.
Oui, bon.
Comme Robin joue plus trop non plus, mais bon, c'est une autre histoire.
Passons à autre chose, revenons à Rain Man. Mais donc voilà, Rain Man a été son plus gros succès en France. Il a attiré plus de 6,4 millions de spectateurs. Mais ce film n'a pas plu à tout le monde, puisque une scène de Rain Man est interdite, figure-toi, Christophe, dans la version proposée par la plupart des compagnies aériennes. Pourquoi ?
Ah, ben oui.
Alors, parce que dans cette scène, on y voit Rain Man quand même faire une crise de panique au moment de prendre l'avion et énumérer une à une toutes les compagnies qui ont eu le plus d'accidents.
Parce qu'il est autiste, en fait, il a appris ça par cœur.
Oui, il a ce syndrome du savant, donc il retient tout.
Il sait tout.
Voilà. Bon, de toute façon...
Si tu regardes ça dans l'avion, moi, j'ai peur de l'avion.
Ça peut déclencher une petite crise de panique. Bon, de toute façon, il n'y a pas besoin de prendre l'avion pour regarder Rain Man. Vous pouvez rester sur votre canapé. C'est ce soir à 20h55.
Sur MZ Story.
Studio B, l'interview.
Avec nous, Alexandre Dino, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue sur Beurre FM. Vous êtes en charge de l'organisation du Nikon Film Festival. Mais alors, c'est quoi le Nikon Film Festival ?
Alors, le Nikon Film Festival, c'est un festival de cinéma qui est organisé principalement sur Internet et qui est dédié aux jeunes talents. C'est un festival de très courts métrages, de 2 minutes 20, exactement, avec un thème imposé chaque année.
Alors, le thème de cette année, je suis un partage. Comment est choisi le thème chaque année ? Parce que c'est la 9e édition, donc il faut quand même beaucoup de renouvellement. Comment est choisi ce thème ? Est-ce qu'il y a une équipe qui se réunit ? Comment ça se passe ?
Oui, c'est ça. Il y a une équipe chez Nikon qui se réunit et qui essaie de trouver un thème inspirant et assez vaste pour inspirer le maximum de monde. Est assez ouvert pour que l'ensemble des personnes qui sont intéressées par le festival puissent participer et puissent donner un regard personnel et une interprétation sur un thème très précis. Voilà.
D'accord. Quel est votre rôle précis ? Parce que vous dites, voilà, vous êtes en charge de l'organisation, mais qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous sélectionnez les films ? Parce que vous devez en recevoir énormément. Est-ce que vous êtes en charge de ça, de sélectionner les films ? Comment ça se passe ?
Oui, alors mon rôle personnellement, c'est l'organisation. Donc, je suis en charge aussi de tout ce qui est définition du thème, essayer d'organiser au mieux la partie web qu'on lance dès le mois de juillet. Mmh. C'est la validation des films, de l'ensemble des films que l'on reçoit. J'échange et je valide l'ensemble des films que les réalisateurs et réalisatrices nous envoient chaque année. Et ensuite, on passe à la partie projection, diffusion, représentation du festival, forcément, et l'ensemble des partenariats aussi, avec qui on a énormément de partenaires qui nous aident à soutenir ces films, à les diffuser et à en parler. Donc, on est là aussi pour essayer de les aider.
Je disais, il y a énormément de films. Au départ, il y en avait 1250 en compétition. Là, il en reste 50. Vous devez voir de tout et n'importe quoi parce que finalement le principe, on peut avoir un appareil Nikon et faire un film. Est-ce que vraiment vous recevez des choses assez incroyables ?
Oui, c'est la force du festival, hein, c'est vraiment d'être ouvert à tous. Donc forcément être ouvert à tous signifie aussi recevoir énormément de regards très différents et beaucoup de prises de risques. C'est une vraie force pour nous. C'est-à-dire qu'on reçoit des choses très cadrées, très sérieuses dans l'esprit et déjà très pro. Et d'autres un peu plus amateurs, un peu plus risqués. Et on essaye de partager un maximum de regards différents, un maximum de styles différents. Mais c'est pour moi vraiment l'un des points très, très forts de ce festival qui est de représenter un maximum de styles.
Oui, est-ce que ce n'est pas un peu l'essence de ce festival, de la liberté, de laisser la liberté à chacun ? Parce que, comme je dis, tout le monde peut prendre son appareil photo et faire un film. Alors, c'est une contrainte quand même, parce que c'est 2 minutes 20, mais finalement, est-ce que ça ne libère pas ce format aussi ?
On espère. En tout cas, le festival est né de cette volonté de casser ces contraintes-là, de proposer un événement qui est accessible à tous. C'est-à-dire tout le monde peut, ou presque, réaliser un film avec, que ce soit une petite caméra, un appareil photo ou autre. Le matériel n'est pas du tout imposé sur ce festival. C'est aussi l'une des libertés qu'on autorise. Et voilà, l'idée, c'est vraiment d'ouvrir un maximum, de laisser place surtout aux idées et au scénario. Après, la durée très courte fait aussi qu'on a moins de contraintes budgétaires et on peut se permettre de tenter, de prendre des risques.
J'ai même entendu dire que vous prêtiez du matériel, mais on va en reparler puisque vous êtes avec nous, Alexandre Dino, pour parler du Nikon Film Festival. On aura aussi tout à l'heure des acteurs qui sont dans un film qui est présenté sur ce festival. Et puis on vous rappelle aussi que vous pouvez aller voir ces films sur le site du Nikon Film Festival. Restez avec nous, Studio B revient dans quelques secondes.
Jusqu'à midi, Studio B, le magazine ciné de Beurre FM. FM, 11h midi, Studio B avec Christophe et Camille.
Merci d'être avec nous, vous écoutez Studio B, le magazine ciné de Beurre FM. Comme chaque dimanche, on est là entre 11h et midi pour vous parler de cinéma et on parle d'un festival aujourd'hui. C'est le Nikon Film Festival, un festival bien particulier puisqu'il propose vraiment à tout le monde de participer. C'est un des festivals les plus ouverts à tous, Camille.
Oui, comme tu le disais avant la pub, Christophe, Alexandre Dino, vous prêtez donc du matériel aux participants.
C'est ça. L'une des contraintes qu'on a identifiées au fil des ans, c'est qu'il manque quand même le matériel pour réaliser. Souvent, les réalisateurs et réalisatrices en sortie d'école ou jeunes diplômés, en tout cas, souhaitent s'équiper pour réaliser leur premier projet. Et nous, il se trouve qu'on est fabricants de matériel, donc c'était un hasard bien tombé. Et l'idée, donc, c'est qu'on propose gratuitement du matériel à ceux qui le souhaitent. C'est totalement libre, c'est une réservation qui se fait sur le site internet directement et on a à peu près 300 prêts chaque année de proposer.
Ah oui, quand même. Oui, donc c'est limité, mais il y a quand même, ça fait quand même un bon nombre, quoi. Si on n'a pas de matériel, on peut quand même participer au festival.
On peut, oui, ouais. Bien sûr. Après, on essaye aussi de mettre en relation toutes les équipes et tous les métiers du milieu du cinéma pour essayer d'aider le maximum de personnes et essayer de pousser les bonnes idées à se réaliser, à se concrétiser et pourquoi pas finir sur le grand écran ensuite avec le festival.
Okay. Alors, comme on le disait aussi, c'est la 9e édition déjà. Est-ce qu'en 9 ans, vous avez un souvenir marquant d'un film en particulier, d'un événement en particulier qui peut-être a explosé, dont on a beaucoup parlé?
J'en ai beaucoup, effectivement. Ouais. C'est un festival qui crée de très belles histoires, hein, dont on est très fiers. Mais si je peux en choisir deux, ça m'arrange.
Oui.
J'en ai un premier qui me vient en tête tout de suite. C'est parce qu'il a marqué une vraie rupture pour le festival. C'était Je suis à l'heure. Mmh. Je parlais d'une agression dans le métro qui avait fait écho avec une actualité un peu sombre. Et c'est ce film qui a été partagé très massivement à l'époque, qui a fait que le festival a pris une autre ampleur et a pris une importance pour partager des messages, diffuser des messages importants et essayer de soutenir certaines causes. Donc on a été très fiers que ce film vienne de chez nous et qu'il soit un peu exposé sur différents médias. Et donc ça a vraiment marqué une première rupture. Et il y a 2 ans, j'ai un autre film en tête qui est « Je suis ton meilleur ami ». Qui fait un peu écho à ce qu'on venait de dire juste avant avec le prêt de matériel. C'était deux personnes qui ont fait un film avec un tout petit budget, qui l'ont fait dans une chambre, deux comédiens qui l'ont fait entre eux et qui ne s'attendaient pas du tout à remporter le festival. Il se trouve qu'ils ont gagné le Grand Prix, présidé cette année-là par Cédric Clapiche, et que maintenant, ça leur ouvre des portes, ça leur ouvre des opportunités. Et on est content aussi de soutenir ce genre de film à petit budget qui sont aussi dignement représentés, j'espère, dans ce festival.
Vous parliez de Je suis à l'heure qui résonnait peut-être avec plus avec l'actualité. Est-ce que le fait de faire des films courts avec du matériel simple d'avoir, simple à avoir en tout cas, tout le monde a un appareil photo où on peut s'en procurer un facilement, est-ce que ça permet d'être plus dans des thèmes d'actualité?
Oui, je pense. Je pense parce que en fait le format très court aussi permet d'avoir un temps de tournage plus court forcément. Et donc ça permet aussi de réagir beaucoup plus rapidement, de s'adapter. Et puis la plateforme libre, la diffusion libre directement sur Internet permet aussi de casser quelques contraintes et quelques formatages qui peuvent exister parfois. Là, le discours est libre et on a l'impression en tout cas que beaucoup prennent le risque parce que c'est leur premier cours et que, entre guillemets, ils n'ont rien à perdre pour l'instant. Oui. Et donc y a une espèce de liberté qui amène un peu de fraîcheur aussi.
Est-ce qu'en 9 ans, vous avez remarqué peut-être moins d'amateurisme? Est-ce qu'au début, c'était vraiment des gens qui se lançaient comme ça, sans avoir forcément d'expérience là-dedans? Est-ce qu'en 9 ans, ça se professionnalise un petit peu?
Alors oui et non, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de personnes qui sont accompagnées par des professionnels. Après, on reçoit beaucoup plus de films, donc on a toujours autant d'amateurs qui participent. Je pense que ce qui est impressionnant, et d'ailleurs le niveau amateur se ressent moins maintenant aujourd'hui, parce qu'en fait tout ça, la qualité globale des films a tiré l'ensemble vers le haut. Et donc même des films amateurs à petit budget arrivent à donner une impression de gros budget, de grosses productions, et d'un côté c'est assez plaisant puisque ça veut dire que maintenant on peut aussi réaliser des films sans avoir un budget conséquent, avoir une énorme équipe derrière, et donc en fait ça se ressent moins à l'écran, donc c'est plutôt une qualité, ça veut dire que les films sont très bons, mais on a toujours autant d'amateurs.
On va recevoir Swan Lawa dans l'émission, qui joue dans Je suis un trésor égyptien de Ilan Zerouki, qui est un film comique et qui, du coup, en 2 minutes 20, est très efficace. Est-ce que vous pensez qu'il y a un genre plus compliqué ? Est-ce que, par exemple, c'est plus compliqué de faire une comédie en 2 minutes 20, ou est-ce que c'est plus compliqué de faire un drame, ou non, finalement ? Est-ce que les deux sont aussi compliqués ou aussi simples ? Je ne sais pas.
Alors, l'exercice est compliqué de base, parce que, effectivement, faire rentrer une histoire en 2 minutes 20, c'est un réel défi. Je pense que la comédie est quand même légèrement favorisée parce qu'on a tendance à se souvenir un peu plus de ce genre d'exercice et ce genre de style. Le drame me paraît compliqué parce qu'il faut installer quand même une ambiance, même si certains arrivent à le faire avec talent. Je pense que surtout, nous, on aimerait voir plus de films d'animation, plus de documentaires aussi. C'est des genres qui sont moins représentés chez nous, même si ça commence à arriver ces dernières années. Je pense que ça a le mérite de progresser, mais on pourrait faire mieux.
Vous avez un jury aussi composé donc de professionnels comme l'acteur François Civil, la réalisatrice Marjane Satrapi. Comment se compose le jury ? Est-ce que au fil des ans, comme le festival se fait un petit peu plus connaître, ils viennent volontiers, ou est-ce que c'est toujours un petit peu compliqué de les avoir ?
Non, on a la chance d'être suivi et d'être accompagné par un jury de prestige depuis le départ. On a eu François Ozon, Cédric Clapiche, Michel Hazanavicius qui nous ont rejoints dans les premières éditions. Et c'est un plaisir, une fierté pour nous. Nous, on essaye de varier les regards un peu à l'image de ce que font les réalisateurs et réalisatrices en compétition, mais on essaye de varier les regards, de mélanger un peu les profils. Et ça donne un cocktail assez fort chaque année. Donc on est content de ça. Après, on a la chance que ces gens-là acceptent de prendre un peu de temps pour voir les films, pour partager leur regard. Et ça se fait toujours de manière assez honnête. C'est-à-dire que c'est des gens qui s'investissent déjà pour les jeunes talents. Et donc ça se ressent fortement sur la fin du festival à chaque fois.
Est-ce que l'objectif premier du Nikon Film Festival est de faire émerger des nouveaux talents pour préparer le cinéma de demain, ou est-ce que c'est vraiment se faire plaisir et sans penser à ça ?
En fait, ça nous dépasse. Ça nous dépasse un petit peu l'enjeu maintenant que peut représenter le festival. Mais nous, effectivement, on l'a lancé pour faire émerger des talents, pour mettre en lumière, pour essayer de diffuser leurs créations et ensuite de les accompagner jusqu'à ce qu'il est possible pour nous de faire, et ensuite d'essayer de les mettre en relation avec ce milieu-là qui nécessite aussi beaucoup de travail et beaucoup de visibilité. Donc nous, on leur apporte en tout cas ce besoin-là.
L'année prochaine, le festival fêtera ses 10 ans. Bon, la 9e édition n'est pas terminée. Vous avez jusqu'au 10 mars pour voter. Mais donc, l'année prochaine, ce sera les 10 ans du Nikon Film Festival. Est-ce qu'il y a déjà quelque chose de spécial qui sera organisé ? Est-ce que vous avez déjà pensé à ça ?
Oui, on y pense parce qu'en fait, beaucoup de monde nous en parle. Nous, on n'avait pas commencé à penser à ça parce qu'on est en plein dans la 9e, mais oui, on commence à penser à ça. On commence surtout à se dire comment on peut mettre en lumière justement encore tout ce qui a été fait depuis 9 ans, tous les films qu'on a eu la chance de recevoir. Et donc, on est plutôt pour l'instant sur l'historique, essayer de remettre
des films marquants,
tout ce qui a été fait. Oui.
D'accord.
Merci beaucoup.
Pour le reste, je garde le suspense.
Oui, vous n'allez pas tout dire.
Vous nous en reparlerez l'année prochaine. Voilà.
Avec plaisir.
Merci beaucoup, Alexandrine. On rappelle que vous êtes un des organisateurs donc, de ce Nikon Film Festival. Tous les films sont à voir, et ça c'est intéressant aussi, on peut les voir gratuitement pour une fois, c'est sur Internet, sur le site festivalnikon.fr, et puis on peut voter pour son film préféré. Merci, Alexandrine.
Merci.
Studio B, l'actu ciné.
Et avant de continuer de parler du Nikon Film Festival, une petite pause avec les actus. L'actu qui commence par le box-office, et beaucoup de monde au ciné la semaine dernière. Et c'est encore qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu qui était en tête du box-office France la semaine dernière. Près d'1,5 million d'entrées supplémentaires. Ce film risque d'avoir une longue carrière. C'est pas vraiment une surprise. Dragon 3 a fait un bon score aussi. 1,2 million pour ce film d'animation, suivi par Nicky Larson et Le Parfum de Cupidon, avec 630 000 spectateurs. On l'attendait peut-être un peu plus haut, mais vu ces deux gros concurrents, c'est vraiment pas mal du tout pour le film de Philippe Lachaud. La Mule et Green Book descendent au pied du podium du coup, mais Minuscule dégringole carrément de la 3e à la 7e place. Dur pour la fourmi et la coccinelle de résister à Croque-Mou et les autres dragons de Dragon 3. Aux États-Unis, le box-office est complètement renouvelé. C'est La Grande Aventure Lego 2 qui est en tête du box-office, mais qui a un résultat un peu décevant. 34 millions de dollars de recettes seulement sur ce premier week-end. Alors oui, ça paraît beaucoup, mais si on compare au premier, il avait fait 69 millions de recettes sur le premier week-end, donc c'est qu'on est carrément sur 50% seulement du chiffre du premier, et du coup c'est une mauvaise augure pour Lego 2, peut-être qu'il n'y aura pas de Lego 3. Seconde place pour What We Want, une comédie qui ne sortira pas chez nous, et puis Sans Froid, un thriller avec Liam Neeson qui sort ici à la fin du mois, fini 3e. On reste aux États-Unis avec Lars von Trier qui transforme ses films en diamants.
Oui, alors je ne sais pas si on reste aux États-Unis, mais...
Oui, non, finalement, bah oui. Oui, pourquoi j'ai aux États-Unis?
Bah oui, non. Bah non. Dans le monde.
Voilà, restons à l'étranger. On reste à l'étranger, c'est bien comme ça.
Donc oui, Lars von Trier transforme donc ses films en diamants. Bon, la Saint-Valentin est passée, vous ne pourrez pas les offrir à votre bien-aimé, mais vous pourrez bientôt les admirer dans des musées donc à travers le monde. Le réalisateur a déjà terminé celui de Mélancolia, qui est exposé en Belgique à Anvers jusqu'au 5 mai. Donc il s'agit d'un diamant de 12 carats, couplé à un projet de réalité virtuelle qui donne l'impression que deux pierres entrent en collision. C'est une référence au moment le plus marquant du film et ça lui a pris 5 ans pour le réaliser. Donc les 12 autres devraient suivre, mais on ne sait pas quand.
Donc il était sculpté.
Exactement, a sculpté le diamant.
Ah, c'est cher.
Voilà. Ah bah oui, ouais, c'est cher. Bon, je pense qu'on peut pas l'acheter en vrai. Hein. On peut l'admirer.
Ouais, bon, au moins, on peut le regarder. Bon, on y va cette fois-ci aux États-Unis avec Martin Scorsese et Leonardo DiCaprio qui préparent une série.
Oui, c'est la bonne nouvelle de la semaine. Les deux hommes donc, ont déjà travaillé ensemble sur 5 films et avaient pour projet d'adapter au cinéma le livre d'Eric Larson, Le Diable dans la Ville Blanche. C'est Leonardo DiCaprio qui en a acquis les droits et qui devait tenir le rôle principal. Finalement, le projet s'est transformé en série et si Leonardo DiCaprio sera le producteur aux côtés de Scorsese, on ne sait pas s'il jouera dedans.
On parle des Oscars et vous ne pourrez peut-être pas voir tous les prix remis pendant les Oscars.
Oui,
bah mince, alors pourquoi ?
C'est le petit scandale qui remue Hollywood en ce moment. Donc, 4 statuettes seront remises pendant la pub. La meilleure photographie, le meilleur montage, le meilleur court-métrage et les meilleurs maquillages et coiffures donc, ne seront pas visibles sur ABC qui retransmet l'événement. Alors, c'est pour raccourcir cette cérémonie qui est quand même souvent jugée trop longue que cette décision a été prise et ça ne plaît pas du tout aux professionnels. Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro ou encore Zach Braff ont déjà exprimé leur indignation parce que c'est quand même des professions indispensables à un film.
Oui, voilà. Mais voilà, malheureusement, ils les cachent du coup. Ouais. C'est pas cool ça. 3 infos en bref pour terminer.
Le nouveau Suicide Squad se fera sans Harley Quinn et donc sans Margot Robbie, mais bon, il y a un film qui lui est consacré qui est en tournage, donc pas d'inquiétude. Netflix a dépassé 5 millions d'abonnés en France. Et ouais, une suite live de L'étrange Noël de Monsieur Jack serait en discussion.
Ah bah ça aussi c'est une bonne nouvelle.
Oui, je sais pas. Moi j'aime pas tout ce délire de Disney de refaire tout en live. Gardons les films d'animation, ils sont très bien.
Oui, mais L'étrange Noël de Monsieur Jack c'est quand même sympa.
Bah bien sûr.
Voilà.
Formidable même.
Donc c'est une bonne nouvelle.
Voilà. Merci,
il faut
Christophe.
Voir le côté positif des choses. On continue nous de parler du Nikon Film Festival, le festival qui propose à tout le monde de faire des films d'une durée de 2 minutes 20 maximum. Donc c'est des très courts métrages, des films qui sont à voir sur le site du Nikon Film Festival. Nous allons en parler avec l'organisateur Alexandre Dino et on en parle maintenant avec Swan Lawa et Julia Munier. Ils ont tous les deux joué dans le film Je suis une audition et puis Swan Lawa il a aussi participé au film Je suis un trésor égyptien. Restez avec nous, ils sont avec nous aussi dans moins de 5 minutes sur Beurre FM. A tout de suite.
Jusqu'à midi, Studio B, le magazine ciné de Beurre FM. Beurre FM, 11h midi, Studio B avec Christophe et Camille.
Comme chaque dimanche chez Studio B, le magazine ciné de Beurre FM. Le ciné, c'est des films qui sont diffusés au ciné, mais c'est aussi des films qui sont diffusés dans des festivals. Et on aime bien aussi vous parler de festivals. Un festival particulier aujourd'hui, c'est le Nikon Film Festival. Particulier parce que c'est pas du court-métrage, c'est du très court-métrage. 2 minutes 20 maximum. On en a parlé avec l'un des organisateurs de ce festival, Alexandre Dino, qui était avec nous par téléphone il y a quelques minutes. Maintenant, place aux acteurs, Julia Munier et Swan Lawa. Bonjour et bienvenue sur Beurre FM.
Bonjour, merci.
d'accord. Vous, vous participez tous les deux au film Je suis une audition, qui est donc en compétition dans le Nikon Film Festival. Et vous êtes aussi, Swan, dans le film Je suis un trésor égyptien.
Oui.
Voilà. Mmh. On va mettre en place notre petite tradition de studio. Mais évidemment, pourquoi vous y échapperez finalement ? On vous demande de choisir deux questions. On propose à chaque fois à nos invités de choisir deux questions. Une chaque question que vous avez envie qu'on vous pose. Et on vous la posera d'ici la fin de l'émission. Et une question que vous n'avez pas envie qu'on vous pose. Il faut la dire, mais on ne vous la posera pas parce qu'on est quand même plutôt sympa. En tout cas, Camille est plutôt sympa.
Oui, normalement.
Est-ce que vous avez une question que vous voulez qu'on vous pose ?
Oui, pourquoi ? Qu'est-ce qu'on avait envie de raconter avec ce film et ces films ?
Oui, qu'est-ce qu'on avait envie de raconter et comment est venue cette envie de faire un film ensemble ?
Ok, ça, on va la poser. Et celle que vous ne voulez pas qu'on vous pose ?
Ah.
Eh ben,
on n'a pas de tabou, on ne sait pas en fait.
Ouais. Ah oui, c'est ça. Vous n'avez aucun tabou.
On a aucun tabou.
Très bien. Essaye, en tout cas.
Vous auriez pas dû dire ça, mais vous imaginez pas ce qu'elle a pu préparer.
Camille. Ça tombe bien parce que la première question que je voulais vous poser, c'est comment vous êtes venu à collaborer dans ces films qui sont présentés au Nikon Film Festival, parce que ce sont deux films, donc on l'a dit, Je suis une audition et Je suis un trésor égyptien, qui sont réalisés par Barnabé Kout et Ilan Zerouki.
Barnaby,
excuse-moi.
Il faut le dire à l'anglaise.
Et donc vous jouez dedans, mais vous avez aussi participé à l'élaboration de ces films, c'est ça ?
Ouais, tout à fait.
Exactement, ouais.
En fait, avec Swan, on se connaît depuis quelque temps. On a participé à un collectif d'acteurs ensemble, où déjà on était moteur de rencontres avec des directeurs de casting.
Exact.
Et là, on se voyait, on travaillait ensemble, côte à côte en tout cas. Et on s'est dit qu'on avait envie d'être moteur, parce que souvent c'est vrai qu'en tant qu'acteur, on est tributeur d'une opportunité, d'un casting, d'un désir d'un réalisateur.
Exact. Ouais.
Et là, on avait envie d'être moteur.
On avait envie de faire un film ensemble. Et puis le Nikon Film Festival, c'est vrai que c'est vraiment une belle occasion de faire un projet qui va être en ligne et qui va être concrétisé rapidement. Donc c'est aussi une motivation pour nous comédiens de se dire qu'on participe à un projet et entre guillemets, les images vont exister dans un délai très court. Et puis avec Julien, on s'est dit vas-y, on fait un film. Et puis on a commencé à travailler avec Barnaby.
Barnaby, moi j'avais déjà travaillé avec lui sur une publicité et on avait envie de retravailler ensemble.
Mais parce qu'il réalise des publicités.
Oui, il fait de la pub, de la mode et il m'avait déjà parlé de tous ces scénarios qu'il a qui sont tous géniaux. Il n'avait pas encore fait de la fiction. Du coup, il avait très envie d'en faire. On avait envie de travailler tous ensemble.
C'est ça. Et puis, on a brainstormé, cherché des idées par rapport au thème. Parce que le Nikon Film Festival, c'est par rapport à un thème chaque année.
Ouais.
Donc cette année est le partage. Et puis, on s'est dit qu'est-ce qu'on avait envie de raconter. Barnaby, Julia, moi, on a réfléchi. Et puis, c'est Barnaby qui est arrivé avec cette idée.
Ouais, qu'on a tous les deux beaucoup aimé.
Et qu'on a tous les deux beaucoup aimé. Et puis après, on s'est mis à la développer un peu tous ensemble. Mais c'est une idée originelle de Barnaby, cette histoire de danseuse.
Donc, on le disait, c'est 2 minutes 20. Donc, c'est quand même très, très court comme format. Quelles contraintes on a ? Est-ce que c'est justement, est-ce que ce sont que des contraintes ? Ou est-ce qu'il y a une certaine liberté, justement, à avoir ce cadre ?
Il y a quand même, finalement, dans cette contrainte, il y a beaucoup de liberté. Parce que le thème du partage, ce n'est qu'un thème, donc on peut aborder le sujet comme nous on l'a fait, qui est vraiment le partage.
C'est ça, et c'est un thème très large. C'est un thème très large, voilà. Très large en plus, le partage. C'est-à-dire qu'il y a des thèmes qui sont plus...
Partager une voiture et parler d'autres choses dans la voiture. Mmh. Donc,
je sais que
c'est un exemple sur le site du Nikon Festival.
Ah, c'est un très bon exemple, vous avez raison de le citer.
Et du coup, oui, il y a quand même une grande liberté au final dans cette contrainte.
Oui, parce qu'il y a le thème. En fait, les deux grandes contraintes, c'est donc la durée, 2 minutes 20. Donc, on est sur un format de très court métrage. Et du coup, ça, c'est une vraie contrainte en termes d'écriture. Parce que développer une histoire en 2 minutes 20 avec une chute.
Ouais. Parce qu'on peut avoir l'impression que c'est plus simple. C'est, ça va être court, tout le monde peut le faire, c'est plus simple. Non, en fait.
Au contraire, parce que installer des personnages, installer une situation, avoir une arche scénaristique avec. Pour qu'un Nikon Film Festival marche, selon moi, il faut aussi une chute. Donc il y a besoin d'une écriture assez précise pour 2 minutes 20. Et donc ces contraintes-là, il y a moyen quand même de s'amuser avec, parce que dans la contrainte, c'est là aussi où on va chercher dans les ressources et la créativité.
Les deux films dans lesquels vous jouez, Swan, sont très différents. Donc il y a Je suis une audition qui va plus vers le drame, et il y a Je suis un trésor égyptien qui est une comédie, clairement. Quel genre est plus compliqué à mettre en scène en 2 minutes 20. Est-ce qu'il y a un des genres qui est plus compliqué ?
Je crois pas qu'il y ait une histoire de Enfin, c'est pas compliqué, c'est pas le genre qui fait que c'est compliqué, très honnêtement, que ça soit du drame ou de la comédie. C'est juste que c'est l'accent va être mis sur des choses différentes, éventuellement. C'est-à-dire que la comédie, c'est vrai que ça demande énormément de précision dans l'écriture des dialogues, au niveau de la rythmique, mais c'est pas pour autant que ça va être plus difficile. C'est deux films, c'est vrai, moi je suis assez content parce que, d'avoir participé à ces deux projets parce que c'est très différent.
Oui.
C'est vraiment très agréable de travailler sur des projets très différents comme ça. Mais avec Ilan Zerouki, qui a eu l'idée originale du Trésor égyptien, avec qui on a travaillé dans l'écriture, avec aussi Romain Passeland, on a vraiment, vraiment... voilà. Dans la comédie, effectivement, on l'a écrit, réécrit. Et ça n'empêche pas que sur Je suis une audition aussi, il a fallu travailler l'écriture, même si le texte est moins en avant que l'image. Mmh. L'écriture demandait aussi beaucoup de précision.
Oui, c'est ça. En fait, il faut être très précis dès l'écriture.
Ah oui.
Pour garder le rythme. Et...
Oui, je pense qu'il faut que l'histoire soit précise, l'idée soit précise. Et c'est ça qui fait que ça marche.
C'est ça. Et puis surtout, arriver tout le temps dans l'écriture à être dans une notion de temps.
C'est-à-dire oui, il pensait tout le temps. Quoi,
penser tout le ouais. temps à limite... À directement avoir en tête l'image qui va correspondre ouais. À ce qu'on écrit.
Et ça, je pense que c'est ce qui fait qu'un scénariste est bon.
Voilà.
Et là, entre autres, on a travaillé avec des bons scénaristes réalisateurs parce que tout de suite, ils ont su concentrer tout ce qu'il fallait.
C'est ça, exactement. Et ils avaient aussi conscience, que ce soit Barnaby ou Hélène, conscience nous, de l'image et du texte en même temps.
Ouais.
Et nous, on peut apporter en tant que comédien... pour le texte, ce genre de choses. On a aussi, je pense, un sens de l'esthétisme, un sens de l'image oui, avec ouais. Julia, mais on n'est pas scénariste, réalisateur. Mmh. Et du coup, voilà, chacun apporte des choses. Et puis, je ouais. pense que le Nikon, il y a une vraie notion d'équipe aussi. C'est ouais. tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de gens sur beaucoup de gens, on n'est pas sur un long métrage, mais il y a quand même beaucoup de gens sur ces deux films à chaque fois.
Justement,
qui aident, qui sont là.
Ouais. Justement, le tournage d'un très court métrage, est-ce que c'est différent finalement du tournage d'un long métrage?
Oui,
oui ouais. quand même.
Bon, et pourquoi
Ça ne lui suffit pas. Oui, elle veut que ça parte.
Parce qu'on voit quand même dans les crédits, on voit qu'il y a une grosse équipe
oui.
quand même. Et c'est vrai qu'au début, on se dit, bon, bah, c'est deux, trois personnes qui vont faire ça.
Ça dépend. Alors, on n'a pas eu les mêmes équipes sur les deux films.
Oui.
Sur notre film, je pense qu'on était des plus petites équipes. Mm.
Sur Je suis une audition.
Je suis une audition. Où on a un peu mis... que ce soit Swan ou moi, la main à la patte pour d'autres postes que les nôtres. C'était d'ailleurs passionnant. Sur Je suis un trésor égyptien, il y avait une,
il y avait une un peu plus grosse équipe parce que Ilan, il avait déjà fait un Nicole l'année dernière Je suis la formidable histoire de la petite souris qui avait eu déjà pas mal de très bons retours. Et Ilan, il a une équipe avec qui il travaille. Donc il y a une super équipe avec lui. Et du coup, avec des postes... presque comme de la télé ou un long métrage, peut-être pas, mais chacun à son poste. Et du coup, vraiment, les choses sont faites vraiment de manière très organisée et très pro, et c'était très agréable.
Est-ce que pour être sélectionné dans les 50 finalistes, il faut comme ça avoir forcément une grosse équipe? Parce qu'on dit que c'est ouvert à tout le monde, que Nikon prête du matériel, etc. Est-ce qu'il faut avoir cet œil professionnel pour faire partie des...
J'ai entendu parler de ce jeune...
Est-ce que c'est plus simple au moins?
Mais j'ai entendu parler, je suis allée voir son travail, alors je ne me rappelle plus par contre du nom du film, mais c'est un jeune homme qui a fait un film en pâte à modeler, en animation, et je crois qu'il l'a fait tout seul.
Ah oui, il est super celui-là, je
ne
me rappelle plus le titre
si
non plus, mais
le
il est super.
Film est de qualité, je pense qu'on peut faire de belles images, on peut écrire une belle histoire, et on peut très bien avoir un bon comédien sans être 15 sur un plateau, il n'y a pas de...
Et puis en plus, je suis une audition, on n'était pas très nombreux.
On était moins nombreux.
Il y avait Barnaby à la caméra, Julia et moi, après on aidait, il y en a un qui... Il y a des postes quand même qu'on ne peut pas enlever, il y a un preneur de son...
Il y avait des assistants à la caméra.
Des postes techniques.
Du maquillage, il y a des choses quand même... pas enlever parce que
mais,
c'est
mais
important
par exemple,
pour faire du bon
c'est
travail.
Vrai que nous Barnaby lui il a fait la lumière et la réalisation, il a aussi composé et fait la musique,
exactement,
fait le montage,
ah oui.
fait
ouais.
le mixage son et l'étalonnage,
oui.
donc voilà, par exemple il a fait beaucoup lui-même et donc il n'y avait pas tous ces postes là.
Exactement.
Et donc la différence avec un long métrage, même quand
oui.
t'as une grosse équipe en court métrage, c'est que c'est des équipes qui sont encore plus grosses. À l'image, tu as plusieurs assistants qui ont des postes très prédéfinis
oui.
parce qu'il faut être sur la longueur, parce qu'il faut aller vite et en même temps, il faut être efficace.
Et c'est très important de ce qu'elle vient de dire. Barnaby a composé la musique du film, ça c'est vrai.
Vous le dire. Vu que vous n'avez aucun tabou, nous allons parler budget. Non, mais parce que le festival est quand même vend un petit peu ça, que on peut faire des films avec peu de matériel, donc avec peu de budget, donc tout le monde peut le faire. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous avez finalement peu dépensé pour tourner vos films?
Alors, c'est, on va dire, peu, on peut toujours peu dépenser, mais c'est juste qu'effectivement, à partir du moment où tu veux aller te rapprocher d'un produit final vraiment de qualité, après, c'est juste qu'il faut se débrouiller avec ton réseau, c'est-à-dire on te prête une caméra, il y a un ami gars qui t'a rendu service qui vient faire ta prise son. C'est possible. Moi, je trouve que c'est possible. Mais après, effectivement, ça coûte toujours. Faut pas croire qu'on peut faire un film avec 20 euros, ça, c'est sûr.
Oui.
Il y a quand même... Après, il y a aussi une histoire de. Quand nous, on est comédiens, on a envie de.
Après, ça dépend. Quoi. Il y a vraiment. Nous, je sais que. Oui, nous, on avait envie de ça. Puis on avait besoin, de, par exemple, de lieux pour Je suis aux une audition. Donc on a loué ces lieux.
On a loué des lieux.
On s'est fait prêter les caméras. Donc. Oui, on a un petit budget.
Après, si on fait un film avec de la pâte à modeler, peut-être que l'acteur est pas cher, que les lieux sont pas faciles à louer.
Au film d'une amie réalisatrice qui, avec qui je travaille, qui a fait son premier long totalement indépendant, avec rien du tout, avec un 50D, et il a eu plein de prix. Donc c'est possible, je crois vraiment.
Oui, c'est pas impossible.
Non, c'est pas impossible du tout. C'est juste qu'il faut mettre. Il faut mettre du cœur à l'ouvrage et entre guillemets, il faut être aussi dans quelque chose de... comment dire, il faut s'entraider en fait, entre guillemets. Il faut avoir des gens autour de soi. On ne peut pas faire un film sans budget, seul.
Oui, voilà, c'est
ça que je veux dire. C'est qu'il faut être avec des gens, il faut que chacun s'apporte, il faut être dans l'échange, il faut s'apporter des choses. Et là, dans ce cas-là, c'est possible.
Mais c'est vrai qu'on entend ça de plus en plus et je crois que c'est vrai. Aujourd'hui, je pense que tout le monde qui a envie de créer peut créer avec peu, même avec un téléphone, ça se fait et ça peut être très bien quand même, quoi.
Oui, c'est le message aussi du festival.
Ouais,
c'est de, voilà, on peut créer même avec peu de budget, peu de matériel. Voilà.
Ouais.
Et puis aujourd'hui, les moyens techniques aussi font qu'on peut arriver à avoir un résultat correct avec du matériel. Voilà.
Ouais.
On parlait de téléphone, il y a même des longs métrages qui sont faits aujourd'hui par téléphone, carrément. Ouais. Enfin,
Steven Soderbergh, voilà,
exactement.
Par exemple.
Ouais. Qui va en faire un d'ailleurs.
Oui, qui va en faire un deuxième. Ouais,
un deuxième avec, juste avec son
iPhone.
Téléphone. Oui. Exactement. Moi, je voulais pas citer la marque. Voilà. C'est sûr qu'on peut faire des choses très bien avec un Samsung formidable. Ou avec un Huawei.
Ouais, avec un Huawei qui a la petite Leica.
Oui, c'est ça. On arrive à la question aussi que vous voulez qu'on vous pose. Est-ce qu'il y a un message marquant que vous vouliez transmettre à travers Je suis une audition et Je suis un trésor égyptien?
Ouais. Nous, ce qui est important. Alors, ce qui est délicat, c'est qu'on ne veut pas trop en dire pour pas non plus dire tout le film, mais. Dans le thème du partage, en tout cas, ce qui me touchait, ce qui touchait Swan, ce qui touchait Barnaby aussi, c'était que je pense qu'on peut partager et on peut faire le bien, chercher le bonheur sans être un héros ou une héroïne, et qu'on peut ramener ça sans aller dans des guerres, sans aller dans changer le monde, à des petits gestes du quotidien. Et donc le film Je suis une audition parle de rivalité, que ce soit dans le sport, mais on en a dans nos métiers de comédien, on en a dans plein de choses dans la vie. Et on est dans un monde où on nous apprend qu'il y a de la rivalité, qu'on doit être, que ça, c'est comme ça dans tous les cas. Et on nous formate un peu comme ça. Mmh. Et nous, on avait envie de parler de ça en disant, oui, mais on peut faire autrement. Et on peut...
ajouter la transmission aussi, voilà, dans la rivalité. Et...
La sororité, pour ce film-là. On peut s'entraider, on n'est pas obligé d'être dans la rivalité en étant artiste, en étant sportif. Voilà. Et on peut le ramener partout dans notre quotidien.
Et on peut transmettre ça en 2 minutes 20.
Oui,
formidable.
Et après, pour Trésor égyptien, il n'y avait pas réellement un message, entre guillemets, mais on avait envie de. Il y avait des. Ilan, il avait des références, on avait envie de. D'être dans un film un huis clos, déjà, j'avais cette envie de huis clos, d'être avec des personnages un peu des pieds nickelés et d'être vraiment dans un humour. Dans un humour assez fin, avec une belle rythmique, et puis avec des références à Tarantino, à Reservoir Dogs, tout ce genre de films un peu de gangsters, un peu bracassés, qui nous faisaient beaucoup rire. Et du coup, on a essayé de développer ça, quoi.
Ça fonctionne très bien. Et donc, vous pouvez aller voter pour ces deux films sur le site du Nikon Film Festival.
Ah, vous êtes là, profitez-en.
Bah, oui.
Donc, Je suis une audition et Je suis un trésor égyptien. Donc, vous avez jusqu'au 10 mars. Donc allez-y, votez.
Oui, parce qu'il y a des prix qui sont intéressants à gagner. Il y a de l'argent, il y a du matériel, et il y a une diffusion.
C'est ça, en fait, ça peut aider, que ce soit les réalisateurs à, par exemple, faire un autre film,
à
se professionnaliser. Nous, ça nous aide aussi parce que on peut être vu.
Et puis surtout, il y a une exposition.
On fait ce pourquoi on fait notre métier, c'est-à-dire qu'on partage quelque chose et on le donne. Et voilà, si le plus de gens peuvent le voir et l'aimer, que ça peut les toucher, c'est ce que.
Et puis le côté de diffuser aussi au ciné chez les partenaires du festival MK2 et puis à la télévision sur le partenaire Canal+, c'est quand même
un
truc plutôt sympa.
C'est devenu un super tremplin, vraiment. Ça a pris énormément d'envergure là, ces dernières années. Et aujourd'hui, maintenant, le fait que ça soit un mélange internet et en même temps professionnel cinéma, ça fait un mix qui est vraiment très intéressant et qui est très inscrit dans le temps et très contemporain. Et ça, ça plaît. Et c'est pas pour rien que ce festival, je pense, d'année en année... aussi de plus en plus.
C'est vrai que c'est le rare, quoi. Il y a que ce festival-là quoi, qui fait ça.
Et c'est le Nikon Film Festival. Vos films, Je suis une audition et Je suis un trésor égyptien à voir sur festivalnikon.fr. Merci beaucoup Julia Munier et Sven Lawa d'être venus nous voir dans Studio B ce matin. On s'arrête là.
Je voudrais remercier Cédric Marviani, sans qui cette émission n'aurait pas été possible car nous n'aurions pas eu d'invité.
Ah ben voilà, c'est sûr que forcément.
Merci beaucoup Cédric.
Allez, on laisse l'antenne à Philippe pour le Book Club la semaine prochaine. Si tout va bien, on parlera du film Jusqu'ici, tout va bien. Dans un instant. Donc c'est donc le Book Club. On se quitte là, on reste en contact sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram. Et on se retrouve donc dimanche prochain, 11h midi. D'ici là, n'oubliez pas, le cinéma, c'est mieux au cinéma. Ciao.
Ciao.
Studio B, le magazine ciné de Beurre FM.